Maintenant, je vois un thème Charlie Hebdo, donc là, on va aborder la question, hein, puisque apparemment il y a plein de... Ma nuit du 7 au 8 a été assez terrible, réveillée trois fois, le bourdon, une question de Bruno. Même si je vis des choses pas forcément faciles aujourd'hui, il me semble que j'étais plombé par quelque chose d'autre, peut-être les Grégoire Charlie Hebdo, car ce matin j'ai mis France Inter, je n'ai pas réussi à ne pas être dans l'émotion ô combien humaine. Est-ce possible que ce plombage de cette nuit soit l'œuvre de cet égrégore? Je mesure que lorsque ça risque d'être bien pire que cela, les marcheurs dans leur cocon et leurs ailes froissées auront grand peine à ne pas se laisser submerger par le tsunami de l'eau des émotions. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est évident que nous sommes tous interconnectés et que plus il va y avoir des masses importantes qui vont jouer dans l'émotion et plus les marcheurs vont être en position périlleuse. Alors, là, que faire? Ben, c'est rester centré, mais surtout, prendre du recul, et, si possible, n'accorder, enfin, c'est quoi dire, aucune importance à ce fait. Donc, moi, c'est Brigitte qui m'a dit, tu sais, il y a eu Charlie de Sébastre, là encore. Il m'a dit, ah, il y a eu ça, bon, d'accord, ok. Et puis après, il m'a dit, ouais, ben alors, il y a le président qui s'est déplacé, j'ai dit, oh là, ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais parce que la président de la République qui se déplace dans l'heure, surtout pour 12 pèlerins qui sont fait flinguer, ça va pas là. Il y a quelque chose qui joue pas là. Donc, tout de suite, j'ai été attiré par ça sent pas bon cette affaire. Ça sent pas bon. Parce que 12 morts, c'est rien du tout quand vous considérez le nombre de morts qu'il y a tous les jours sur les routes de la France. 12 morts. Par rapport à 65 millions d'individus, vous voyez le bordel qui a été fait pour 12 morts. C'est incroyable. Donc, on se dit, tiens, il y a un truc. Et dites-vous bien que, pour moi, ça a été organisé. Ça a été fait pour provoquer tout ça, parce que tous nos politiciens sont au bout du rouleau, et ils savent plus quoi faire. Et il existe une fameuse théorie qui s'appelle la théorie du choc, qui dit si on fout un électrochoc à l'humanité, enfin l'humanité, à une population locale, et les émotionnellement parlant, eh bien on va les entuber en balançant des lois pour les protéger, parce que comme c'est des moutons, et ils vont être tous d'accord. Et les États-Unis ont fait la même chose avec le 11 septembre. Hein, ils ont fait le Patriot Act, et avec ce Patriot Act, ils ont entubé tout le monde. Et tout le monde a suivi, et tout le monde a dit, oh oui, c'est bien. Puis après, on dit, bah oui, mais là, maintenant, il faudrait arrêter ça, il n'y a plus besoin. Mais on dit, mais si, il y a toujours besoin. Si aujourd'hui, on disait, ben non, en septembre, maintenant, c'est plus la peine, alors on pourrait virer tous les scanners, en rayon X et tout le bordel qu'ils foutent dans tous les aéroports et compagnie. Ah bah non. Ça, c'est pas possible. Pour les installer, il faut les rentabiliser, il y a une raison. Donc maintenant, comprenez que le côté sombre de cette humanité va jouer sur le plan émotionnel pour, on va dire, avancer ses pions. Et cette histoire de Charlie Hebdo est pour moi tellement gros, tellement évident. Écoutez, doucement. Quand il y a un avion qui descend, qui a 200 morts ou 250 morts, parce qu'on a fait une maladie. Il y a un avion, il s'est écrasé, il est en mort. D'accord. Une semaine après, on se souvient même plus que l'avion existe. Il y a 12 morts. Eh ben, hein? Il y a 12 morts, c'est quoi? Même pas une camionnette, c'est un car scolaire. Même pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement démesuré, cette affaire. Complètement démesuré. Donc on joue effectivement en pleine dualité. Alors il paraît qu'aujourd'hui, j'ai quand même vu ça ce matin, sur internet, malgré moi, que les dirigeants des autres pays se déplacent pour la manif, etc. Alors tout le monde dit, faut surtout pas y aller, parce que c'est là que vous risquez de tous vous faire flaguer, mais ils vont quand même. Donc, il y a des trucs qui sont pas clairs. Enfin bon, bref. Les règles de sécurité ne sont même pas remplies par ceux qui sont à la tête du pouvoir. et ils veulent donner de la sécurité. C'est incroyable. Bon. Alors, une question de Jardin Zen. Depuis ce matin, du 7 n'est-il pas plus que jamais essentiel de ne pas être happé par les égrégores foisonnants? Ça, c'est évident. Mais on ne va pas écouter puisqu'on est quand même branché dessus. La réponse est sans doute présente en quelques mots dans un de tes derniers articles. Mon frère, mon ami, la paix sur terre n'arrivera que lorsque tu auras fait la paix en toi et pas avant. Il est donc inutile d'aller se battre dehors, car dehors tu ne trouveras que les projections extérieures de ce qui est en toi, à l'image d'un écran de cinéma. Ce choc peut-il amener les peuples à enfin ressentir et manifester la fraternité, le partage, autrement qu'en ce monde de 3D? Est-ce un premier pas? Eh bien, disons que ce qui va se passer, c'est que cette année 2015, on a vu, elle a commencé le 7, eh bien, c'est qu'un début. C'est par cela que, on va dire, l'aspect sombre va essayer de quasiment vous enfermer définitivement. En passant par le côté émotionnel, parce que bien sûr, ça va donner des forces au passage aussi. Donc, plus ça va gigoter émotionnellement, plus les gens vont être dans la dualité pour signe de vengeance, plus on va forcément mettre une religion contre l'autre, etc. Plus on va brasser le bordel, et plus il va y avoir de chances qu'on va se faire sucer ou emprisonner encore plus fort. Et donc, le côté sombre, c'est très bien aussi utiliser l'aspect, on va dire, engrais des nouvelles énergies. Donc, ils en profitent, hein, ils jouent leur jeu. Alors Véro dit, voilà, je comprends laisser des morts enterrer les morts, que l'affectif préhumain n'a rien à voir avec l'énergie amour. Je comprends aussi que les manifestations anti ou pro nourrissent les égrégores négatifs. Mais je me pose la question, les rassemblements partout en France après l'attentat Charlie sont-ils bons ou pas? Ben, la réponse est simple. Bon en quoi? Bon pour qui? Ben, pour ceux qui ont organisé cet événement Charlie. Or, est-ce que ça peut être un acte d'amour d'organiser une tuerie? Donc la réponse est évidente. Ça ne peut rapporter qu'à ceux qui ont avantage à ce que le plan émotionnel soit mis en avant afin de pouvoir diriger toutes ces masses d'individus dans les directions avec les panneaux indiqués. Je dis même les politiciens sur la marche, pour vous dire. Alors, une question de Gino. Je suis Amédi, Shérif, Saïd, les prénoms des tueurs. Comment se fait l'unité dans ce cas-ci? La compassion pour chaque un? Ben, il faut savoir, c'est à l'image de ceux du 11 septembre, on a pris des pèlerins, qui bien sûr, forcément, ont tous, on va dire, allégeance à une autre religion avec des noms bien sûr étrangers, donc d'après vous. S'ils s'appelaient Pierre, Paul et Jacques, est-ce que ça aurait le même effet? Donc nous nous retrouvons dans un septembre identique, avec les mêmes trucs, et bien sûr, comme des moutons, tout le monde retombe dans le même piège. Bon. Donc la loi de l'unité, c'est de suivre les lois de l'un. Quand nous disons nous sommes tous un, c'est dans le principe, c'est clair. Mais tu sais, quand il va y avoir 7 milliards d'humains sur 7 milliards, il y a déjà 6 milliards qui vont partir, tu vas dire où elle est la loi d'unité. La loi d'unité sera de dire on va mettre chacun à la place où il doit être. Ça, c'est l'unité. Donc il faut arrêter de comparer du physique avec du physique, car dis-toi bien que ce que tu vois de physique n'est qu'illusion. C'est une projection sur un écran. Je sais que mentalement, oui, on est une projection, c'est illusoire, etc. Mais quand tu l'auras vraiment compris, il y a un certain nombre de questions qui ne se viendront plus à l'idée. Une question de Bruno, puisque la France est le chakra du cœur de l'Europe, et que ce chakra semble se trouver à Paris, pouvons-nous dire que ces événements tragiques font le jeu de l'involution ou de l'évolution? Bon, maintenant tu connais la réponse. En effet, la déferlante médiatique sensation politico-émotionnelle serait arrangée au sol de l'involution, tandis que l'élan de cœur des Français dans les rencontres, je suis Charlie, serait plutôt de l'or moutonnesque évolutive. Non? Ah, tout à fait. C'est-à-dire que ils s'associent à cela, et donc vont donner leur émotion pour amplifier le système. Donc, qui gonfle les grégores? Admettons, c'est un jeu de l'involution. Alors, t'as trois agresseurs, enfin trois tueurs, sachant qu'il y en a un qui en a vu cinq. Donc ça veut dire que c'est complètement, ça tient pas la route. Ça veut dire que simplement les gens se rencontrant en disant je suis Charlie ne font que répondre à l'alimentation de l'égrégore lui-même. Vous voyez, c'est pas compliqué quand on dit que le préhumain est un mouton, mais ça en est un, ça répond au quart de tour. Ça répond au quart de tour. Donc il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres, forcément, hein, puisqu'il y a eu, je crois, il me semble, puisque j'étais acheté une petite bricole dans un magasin de bricolage, il y a quelqu'un qui m'a dit oh, il y a eu une deuxième attaque, porte de Vincennes, etc., etc. Les gens sont accrochés à ça. Elle était à sa caisse, elle dit oh, il est dans le nord, il y a un truc, ça vient d'arriver. Bientôt, ils vont mettre la radio en ligne dans les magasins pour que tout le monde soit au courant, tout de suite, maintenant. C'est dingue. Bref. Bon, on va continuer. Une question de Sylvette. Est-il juste de dire que tout, absolument tout, est sous contrôle et dans le jeu du sans-nom ? Vous, nous, les archontes, les événements, etc. Grâce à tes articles, nous avons des éléments de compréhension. Néanmoins, une grande partie m'échappe du fait de la complexité du jeu. La question est, nous devons, à notre niveau de jouer, faire simple, alors que tout est compliqué. Faire et suivre sans comprendre la voix de la petite voix, car nous sommes des créateurs incarnés paumés. Où est la joie dans le jeu plan ? Alors, la joie est une projection, on va dire, relativement de bisounours. C'est-à-dire, puisque nous expérimentons l'involution en permanence, c'est la non-joie, hein, puisque quand on parle de joie, c'est parce qu'on n'y est pas. Hein, parce que si on était dans la joie permanente, on n'en parlerait pas. Donc déjà, nous sommes dans la non-joie. Donc il nous dit, ça serait bien quand même d'avoir la joie. Et on va voir que, tout simplement, la véritable joie n'est pas la joie que nous connaissons en 3D. C'est pas cette joie-là. C'est comme la compassion. C'est pas celle-là. C'est autre chose. Et c'est une notion, la véritable joie, quand on est dans l'un, est une notion d'être-té. Et cette notion d'être-té, c'est que tu sens que tu es et que tu agis. Enfin, tu agis. Tu es là, point. Tu es conscient de ce qui se passe. Et en fait, plus tu vas avoir la capacité à prendre du recul et que tu vois que c'est un jeu parce que c'est quelque chose de projeté sur un écran, et plus tu vas sourire à la chose. Parce que tu vas te dire, l'écran m'attire. Je voudrais agir. Je voudrais faire. Et le but du jeu consiste à simplement regarder ce qui est et d'en prendre sa jouissance. Donc la jouissance n'est pas dans le faire ou dans d'essayer d'être en joie. La joie est une conséquence. C'est une conséquence de vibration, de mise en résonance avec ta véritable être-té. Tout ce qu'il y a autour, tous les événements, toutes les relations qu'il y a autour de toi ne sont que du décor. Du décor pour te perturber, te disperser et d'éviter que tu sois là, en paix, à regarder ce qui est. Et tu verras que le fait d'agir relèvera plutôt de l'intention véritable. Parce que la véritable intention n'est pas un objet fait par la volonté, par le mental. Et tu verras la puissance de l'intention. Parce que la puissance de l'intention va directement faire varier les paramètres qu'il y a autour de toi. Mais bon, pour comprendre un tout petit peu mieux ce dont je parle maintenant, quelques vidéos sont nécessaires. J'ai déjà donné un certain nombre d'éléments sur CD12D, mais maintenant, il faut les rassembler pour que vous compreniez. Alors bien sûr, dans les débuts, vous n'allez pas y croire à un iota, vous direz, ouais, bon, c'est une élucubration, machin chose, mais qui, au fil du temps, vous allez voir, vous apportera cette vérité. Mais chaque chose en son temps. Une question de Vincent. Vivons-nous le jeu le plus difficile au niveau de la souffrance du corps physique ? Alors, le problème, c'est les mots. C'est-à-dire qu'une souffrance, c'est une douleur mentale. Ton corps physique peut avoir une douleur. Je prends un marteau, je te tape sur les doigts, ça s'appelle une douleur. Ok? Ensuite, supposons qu'avec ce doigt, tu pouvais réussir à te faire plaisir. Là, ça devient une souffrance parce que tu ne peux plus te faire plaisir. Donc, il faut comprendre entre la douleur, qui est donc un fait, on va dire, nerveux et biochimique en même temps, de la souffrance, qui, elle, est une interprétation de quelque chose. Alors, quand, par exemple, quelqu'un meurt, est-ce que ça te fait une douleur au corps ? Non. Tu dis, tu vas parler de souffrance. Ça ne fera pas de douleur, parce que l'autre, ben, il meurt, ton corps physique, il va continuer sa musique, il dit, c'est quoi le problème ? Donc, tu n'as pas de douleur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion entre douleur et souffrance. Donc, dans ta question, c'est un peu ambigu, parce que le corps physique n'a pas de souffrance. Et ton corps de souffrance, ce qui est appelé dans les certaines, on va dire, enseignements, c'est simplement ton corps émotionnel. Donc, ton corps émotionnel est un corps de souffrance. Et ton corps émotionnel dépend directement de l'interprétation que tu vas faire des choses. Donc, de ton corps mental. Et donc, de tes croyances. Donc, tes croyances vont te faire souffrir ou pas. Voilà. Donc, vivons-nous le jeu le plus difficile ? Nous jouons un jeu extrêmement difficile. Et en fait, qui est le plus avancé, jusqu'à maintenant, en termes de séparation avec nous-mêmes. Donc, effectivement, nous créons des souffrances au-delà de l'imagination. Parce que nous sommes loin de comprendre que cette souffrance que nous pouvons vivre au niveau individuel, nous la répercutons à l'ensemble de l'humanité. Et l'humanité te renvoie sa souffrance. Donc, c'est pour ça que l'affaire Charlie Hebdo s'abrace. Parce que c'est là que tu te rends compte que le lien qui unit tous les gens est énorme. Et pour eux, ils trouvent ça normal. Ils disent, oui, c'est humain. Une question de Pelo Sato. Comment rester de marbre, subir la loi d'attraction, ne pas traîner nos mauvaises pensées comme des boulets pour ensuite s'engluer dedans quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous? Je veux parler des chemtrails, de l'attentat de Charlie Hebdo. Je pense que c'est un attentat commandité qui n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Comment rester de marbre, chercher la petite flamme à l'intérieur de nous et puis? Il n'y a pas à rester de marbre. Il y a simplement à regarder ce qui est et de voir ce qui se cache derrière. Je rappelle que c'est votre interprétation mentale des choses qui vont faire que l'émotion va venir ou pas. Donc, si vous avez une interprétation qui dit « putain, on a tué des gens qui faisaient du satirique », pourriez dire « ouais, bon, bah ils l'ont cherché hein. ». D'accord, pourriez dire « Dieu, bah, ils l'ont cherché, bon, voilà, quoi, c'est tout. Hein. » Vous dire « oui, tiens, il y a 12 morts à la prison locale, bah écoute, hein, c'est leur truc entre eux, ils se font leur petite guerre entre eux, voilà, c'est tout. Tu sais, ça ne te dérangerait pas plus que ça. » Là, le truc, c'est il n'y a pas à rester de marbre, parce que rester de marbre, ça veut dire que tu as aucune sensation, aucune sensibilité. Non, c'est que tout simplement, tu vas regarder ce qui est et comment tu réagis à cet événement. Et c'est là que tu vas voir que tu es relié à des tas de programmes, souvent inconscients, et que tu es surtout aussi relié à l'inconscient collectif. Donc, quand tu te mets un coup de marteau, enfin quand tu reçois un coup de marteau sur le doigt, c'est l'ensemble de toutes tes cellules qui va là. C'est pas juste les cellules du doigt. Alors celles du doigt, elles hurlent plus fort que tout le monde, mais il faut savoir que toutes les autres aussi, elles apprécient pas du tout. Hein. Parce que ben, pendant que les cellules du doigt hurlent la mort, les autres, elles disent ben, c'est bien, mais ça me perturbe cette affaire-là. D'accord ? Donc c'est un peu cela. Donc nous sommes une cellule de l'humanité, chacun d'entre nous. Et le but n'est pas de rester de marbre, c'est de dire, tiens, il y a une information qui arrive maintenant, qu'est-ce que je fais de cette information? Donc si tu es une cellule du foie, tu dis, bon, là, ils ont reçu un coup de marteau, ok. C'est pas pour ça qu'il va falloir que je me mette à pleurer et puis à dysfonctionner. Voilà, si par contre tu dis, ah là 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 là, encore un coup de marteau, et puis voilà, voilà, et tu te fous le foie en carafe. Donc c'est cela. Regarder ce monde, ce n'est pas être de marbre, c'est ressentir les choses, mais ne pas réagir comme un mouton selon des programmes que tu n'es pas conscient. Et même si tu es conscient de certains programmes disant oui, mais c'est normal, je suis humain, c'est ceci, c'est cela, ça aurait pu être moi, enfin tout, c'est là que tu te rends compte que les programmes involutifs sont vraiment partout en nous. Donc, est-ce que tu redeviens autonome en disant mais c'est moi qui décide de mon état émotionnel? Ou est-ce que ça peut être n'importe quel événement extérieur? Parce que tous les gens qui ont réagi comme des moutons ont-ils pensé en termes de responsabilité de ce qu'ils ont engagé comme énergie dans l'affaire et de comment ils ont, on va dire, augmenté l'égrégore de par cette simple question qu'ils ne se sont pas posée. Où suis-je responsable de cela? Parce que si effectivement les gens n'avaient pas réagi comme des moutons, eh bien ça serait un fait divers qui serait passé par nous comme d'autres. Puis c'est tout. Puis ça, voilà, ça aurait fait un flop. Mais là, ça a bien marché, là. Ils ont su s'y prendre. Et c'est des vieilles ficelles, ça, de l'involution. Mais bon, on tombe toujours dedans. Une question de Bruno de Marseille. Une attraction énergie nous pousse depuis quelque temps à nous retrouver entre nous, les marcheurs, comme un besoin de nous reconnaître, vibrer ensemble, mettre en place des rencontres, savoir que l'on n'est pas seul. Déjà, des communautés se forment avec des personnes qui sont en leur propre guidance, mais bien souvent en campagne. La question est, quid de la ville? Faut-il, d'après toi, les déserter dès que possible? Peux-tu nous parler de ces cités de lumière, communautés du monde? Merci. Alors, ça, je l'ai déjà dit depuis longtemps. Les villes vont devenir des zones de non-droit très rapidement. C'est pas bon d'être en ville. C'est franchement pas bon d'être en ville. Alors, c'est sûr que se rapprocher des gens de la campagne, c'est bien. Alors après, il faut savoir ce que ça veut dire les gens de la campagne. Hein, parce que la campagne, maintenant, je vous rappelle, c'est plus la nature. Hein. C'est juste des champs de maïs ou de blé, quoi. Enfin, des champs, quoi. Tout a été rasé. Donc, la campagne, c'est simplement de dire, on n'est pas en ville. Ouais, c'est une définition, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais dites-vous bien que quand vous êtes dans un village, vous n'allez pas vous retrouver dans un village avec des geeks qui sont au dernier cri et tout. Hein. Non, vous allez les retrouver avec des petits lieux. Dans la majorité des cas, la moyenne d'âge, on va dire, des villages est quand même assez élevée. Hein. Donc, d'une certaine manière, les villes sont intéressantes parce que ça bouge, il y a de la jeunesse. La campagne, ils sont encore avec les idées d'il y a 30 ans. Donc, il faut s'y faire quand même. Hein, il faut s'y faire. Hein, ils sont pas tout à fait, dans la mouvance. Mais bon, il faut savoir trouver un juste milieu. Donc c'est pour ça que les gens qui sont des marcheurs vont petit à petit se regrouper. Mais ils vont se regrouper s'ils écoutent bien sûr leur petite voix. Parce que il y a, on va dire, des compositions à respecter, et c'est notre petite voix qui sait ça. C'est pas à nous de décider, tiens, là, il y a un groupe qui s'est constitué, je vais aller là-bas ici, parce que là, on va être encore dans le style de communauté 3D, 3D, 4D, bisounours, et ça va pas jouer. Ça va pas jouer. Donc ces fameuses cités de lumière apparaîtront en temps et en heure au fur et à mesure, et elles deviendront de lumière pour la simple et bonne raison, c'est que les personnes qui viendront seront des lampadaires. Donc des lampadaires ayant bien sûr un total respect de ce qu'il est, et qui pourront regarder l'autre pousser sa gueule et rester en paix. Parce que dites-vous bien que quand on est des marcheurs, on est quand même des cuves à mazout sur pattes, c'est-à-dire que on est loin des probes et qu'il y a toujours, on va dire, du ménage à faire. Et si sortir d'une densité, on va dire, noire à 99%, parce que simplement t'es à 95, c'est bien, mais t'es quand même encore à 95. Ok, donc le truc, c'est personnellement, je ne me sens pas pour l'instant attiré pour aller vers des cités, vers des machins, vers des trucs. Je crois que être tout seul, c'est pas bon non plus. Hein. Deux, c'est le minima syndical. Mais on fait en fonction des moyens du bord, et de toute façon, comme il va y avoir de moins en moins de monde, il va y avoir de plus en plus de rapprochements. Parce que ceux qui vont rester vont être forcément ceux qui sont dans les vibrations. Donc les choses vont se faire, simplement, ne soyons pas impatients de dire « Ouais, bah, j'aimerais que ça arrive dans une semaine ou dans 15 jours. » Dites-vous bien qu'en termes évolutifs, nous sommes quand même dans un truc étalé sur plusieurs décennies. Donc il y a des dates sur lesquelles apparemment on ne peut pas vraiment transiger, hein, puisque c'est l'horloge cosmique. Donc des fois ça me désole un peu de dire voilà, il va falloir attendre 25 ans pour que ça s'espace. Enfin, pour que l'aiguille soit plus en face de tel chiffre, c'est pénible, mais bon, ça se passera. Je me rappelle, dans les années 80, quand on parlait de 2012, j'ai dit, mais attendez, les gars, là. 2012, c'est dans combien de temps, là? C'était dans les tout débuts des années 80, dans mon cas, et attendez, 2012, c'était une éternité. 2012. 30 balèves. Attendez, 30 ans. Bon, j'en avais 30 de moins. J'avais même pas 30 ans, d'ailleurs. Donc, je me disais, voilà. Et puis, il s'est bien passé des choses et des tas de choses. Et vous voyez, on est en 2015, maintenant. C'est derrière. Et bon, il s'est quand même passé 35 ans, quoi, je veux dire. Donc, les choses viendront en temps et en heure. C'est pas la peine de vouloir courir plus vite que la musique, mais c'est pas la peine de dire aussi, je peux me reposer au parking et puis attendre que ça se passe. Hein, c'est un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est votre petite voix qui le sait. C'est votre petite voix. Si elle dit, bouge ton cul, tu bouges ton cul. Si elle dit, pose ton cul, tu poses ton cul. Voilà. Si elle dit, lis cette chose, telle chose, tu lis. Si elle dit, va sur internet et regarde ça, tu le fais. Si elle dit, ferme les bouquins, t'as plus besoin pour l'instant, tu fermes les bouquins. C'est vraiment, nous n'avons pas au niveau de notre mental ego toutes les cartes et toutes les capacités pour pouvoir se tirer d'affaire. Je sais que ça va bloquer pas mal de gens à ce niveau-là, mais c'est ainsi. De toute façon, plus vous avancerez, plus vous le découvrirez par vous-même. Parce que pour l'instant, on est encore, pour une grande majorité d'entre nous, encore dans la volonté de diriger notre vie. Ou dans la volonté de dire, ça serait quand même bien si j'arriverais quand même à survivre à la chose. Je dirais que me concernant, plus j'avance et plus je me laisse franchement aller parce que, à aller à ce qui est, à ce que ma petite voix peut me raconter, parce que ça devient, les informations qu'on me refile deviennent un petit peu difficiles à digérer mentalement. Ok, là on me dit ça, d'accord, ok, je mets ça dans un coin, et puis ben quand ça fera tilt, mais pour l'instant je vais pas passer mon temps dessus et puis poser 3000 questions parce que ça sert à rien. Parce que il me manque encore des morceaux, certainement, et puis quand il y aura un déclic, il se fera. Et généralement ces déclics se font, bien sûr, comme vous le savez, au moment où on s'y attend moins, c'est-à-dire au moment où on est le plus relax, le plus cool, et qu'on cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Et c'est là que l'illumination, on va dire, intervient. C'est-à-dire, ah bah oui, mais bien sûr, c'est évident. Pourquoi j'ai pas pensé avant cette affaire? Donc maintenant, moi j'en suis arrivé à ce stade. Quand mes guides me disent, bah t'as des questions? Non. C'est con. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, j'aimerais avoir un guide parce que j'ai pas de questions à poser, mais on n'avait pas de guide. Et on n'a aucune question. Parce que c'est une loi naturelle. Qui fait que plus vous êtes en présence, dans votre aura de présence, on va dire, de haute fréquence, et plus vous êtes dans ces hautes fréquences, et vous n'avez pas de questions, c'est. Et les choses se passent, et ça passe pas par la case mentale. Je dirais presque une hôtesse en disant, t'as des questions? Si t'en as, tu les poses, ils te vont te répondre, mais si t'en as pas, ils vont dire, ah. Mais ils le savent si tu mens ou pas, parce que si t'as des questions et tu dis non, ils vont savoir, parce que tu seras pas en accord. Mais si c'est véritablement le cas, t'as pas de questions, Alors, sur le moment, ils disaient « Ah, merde !» Et puis, ils disent « Ouais, mais bon, il avance. » Alors, une question de Théo. Les bases de connaissances dans nos sociétés sont trafiquées et monétisées pour créer la stratification sociale du pouvoir et de la richesse. Comment vois-tu que l'éducation et l'enseignement devraient être un jour, devraient être pour garantir une structure sociale ou coopération tournée vers le service aux autres? Bah, une chose est claire, c'est que tout ce qui est enseignement est forcément sous la coupole du politique, qui lui est sous la coupole, non seulement du service du pouvoir, mais la coupole économique. Et cette coupole économique est forcément sous la directive de ceux qui veulent sucer à mort tout ce qu'ils peuvent au niveau financier. Résultat concret, le système d'éducation qu'il y a actuellement est de même nature que le système politique que nous avons, que le système économique que nous avons. Donc tant que nous serons basés sur un système commercial, où il y a à dégager un bénéfice et à se dire si je peux marger 3 fois plus, alors si je peux le faire, parce que là d'un seul coup il y a plus de demandes que d'habitude et on peut pas fournir, donc on va les vendre plus cher, c'est-à-dire de profiter de la moindre occasion pour se faire du beurre. Donc, tant qu'on sera basé sur un système comme ça, eh bien rien ne fonctionnera véritablement par rapport aux valeurs, puisque c'est un truc purement égoïste. Alors même si après il y en a qui disent oui, mais moi avec tout l'argent que je gagne, c'est pour reverser à des associations caritatives, à ceci, à cela. Bon, d'accord, c'est un pis-aller, mais d'une certaine manière, ça reste du même acabit. C'est quelqu'un qui dit maintenant je fume plus de cigare, maintenant je suis juste la cigarette. Je fume toujours. Par rapport aux sociétés du futur, l'éducation ne se fera pas selon un programme tel qu'il est défini actuellement par les autorités. Parce que ça, c'est un programme purement mental qui est du bourrage de crâne, tout simplement. Dites-moi, aujourd'hui, parmi tous ceux qui ont été au moins jusqu'au bac, ou qui ont parlé d'intégrale, ou de dérivation, ou de dérivée, excusez-moi, est-ce que vous utilisez ça dans votre vie de tous les jours? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez besoin de faire une intégrale, et de connaître par cœur certaines dérivées pour pouvoir faire des intégrales? Est-ce que vous vous servez de ça dans tous les jours de votre vie? Ben, c'est simple, quel que soit tout un mathématique qu'on a foutu dans le crâne, eh bien, ça s'arrête à la calculatrice. Et de temps en temps, on a une racine carrée. Bah oui, Pythagore, de temps en temps, je m'en sers. Mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, c'est vraiment aussi con que ça. Une calculatrice simple. Rien d'autre. Donc, le reste, c'est simple. Donc, les programmes d'éducation, tels qu'ils nous sont donnés, sont, dans la majorité des cas, à 95% du fond, qui servira jamais, 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 jamais. Donc, dans la société du futur, il sera donné on va dire des axes, des orientations qui sont faites bien sûr par vos guides, et les enfants apprendront, mais ce sont eux qui décideront à quelle vitesse ils apprendront les choses. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun horaire. Il y aura simplement que ils seront des groupes et chaque groupe décidera de son avance. Voilà. Alors bien sûr, il y a toujours une petite récompense quand le résultat est obtenu, et c'est un résultat, on va dire, collectif, dans le sens où ceux qui ont tout compris du premier coup, ils vont essayer d'enseigner à tous ceux qui n'ont rien compris, parce que c'est un pour tous et tous pour un. Et donc, quand tout le monde est arrivé à comprendre, c'est super. Ils partiront en ce moment-là, ils partiront vers une autre leçon. La seule différence, c'est qu'il y aura certains individus qui seront regroupés dans certaines classes plutôt que d'autres, parce que ils avancent plus vite, pour eux c'est beaucoup plus clair, alors que d'autres ils avancent moins vite et ils n'ont pas forcément besoin d'intégrer les mêmes choses, parce que tout simplement leur esprit directeur a des options que n'ont pas l'autre. Donc si par exemple vous avez une tendance à aller vers la mathématique, les sciences et la physique, ben ils iraient vers ça. Alors que si l'autre il dit moi je suis attiré plutôt pour faire de la peinture, ben il ira vers la peinture. Alors pourquoi imposer à quelqu'un qui veut faire de la peinture de faire des intégrales et des dérivées? Mais aussi pourquoi imposer aux scientifiques de dire tu vas prendre un pinceau et apprendre à peindre? Donc il y aura un respect d'abord de l'individu et de la tendance mouvance de l'esprit qui l'anime. Et donc, c'est simple. Quand vous pouvez discuter avec un être de la nature, un esprit castellan, vous pouvez discuter avec l'esprit directeur de quelqu'un. C'est une entité. Donc, l'élite cause régulièrement avec mon esprit directeur. Et donc, je dirais qu'il y a des fois... Quand je dis parler avec notre petite voix, je fais quoi? Je ne fais que parler avec mon esprit directeur, avec un intermédiaire qui s'appelle le soi supérieur. Mais je discute avec une entité. Simplement, cette entité, c'est moi, c'est mon essence. Donc, c'est comme ça que je me rapproche de ce qu'il veut que je fasse, parce que je suis la partie incarnée qui expérimente dans la matière. Et donc, je suis à son service. Tout qu'il est comme à mon service, en essayant de résoudre toutes les problématiques qui se posent à moi. Voilà. Alors, une question de Véro. Puisque le système va tomber d'ici un an à deux ans, qu'il faut faire des réserves et cultiver son jardin, que même si on fait partie la deuxième vague de partants, 10 à 20 ans, la famille et le chaos vont durer. Ne vaudrait-il pas mieux de venir respirer rapidement? Ou cela se ferait-il naturellement en augmentant son taux vibratoire? Et voilà, t'as donné la réponse. C'est-à-dire que si tu suis la musique, gentiment et tranquillement, en lâchant prise sur beaucoup de choses, bien tu vas voir que progressivement ton corps va suivre les nouvelles données qui sont envoyées par la mort Antiagaya, ainsi que par le soleil. Et donc, petit à petit, eh bien, tes cellules vont se transformer en termes de fonctionnement. Et en se transformant en termes de fonctionnement, les vieilles habitudes, entre guillemets, vont progressivement disparaître. Donc, avant, à la campagne, les gens, ils avaient tous des clapiers et des volaillers. C'est-à-dire, ils avaient tous des poules, ils avaient tous... et puis, ben, un mouton par-ci, un truc par-là, etc. Eh ben, quand tu deviens végétarien, tu dis, ben, les poules, merci. Tu dis, ben, le mouton, ben, non. Tu dis, ben, les lapins, ben, on oublie. Et puis, tu te rends compte que, en fait, progressivement, ben, tu vas manger des choses de plus en plus simples. Et puis, ben, arrive un moment, il te faudra pas grand-chose. Pas grand-chose. Et je dirais même que arrivé à un stade, le jardin n'existera plus, puisque les gens iront beaucoup plus spontanément vers, on va dire, les arbres fruitiers. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu plantes un arbre fruitier, ça demande encore quelques années avant que ça produise, quoi. Donc c'est un peu délicat. Mais les choses, faut suivre la musique. Donc devenir respirien peut être un objectif, on va dire, correct. Simplement, c'est pas à notre mental de l'imposer, c'est simplement à notre corps de progressivement nous diriger vers ce mode de fonctionnement, à la seule condition qu'on lui laisse les rênes entre les mains. Et ça, c'est déjà plus difficile. Hein, parce que vous dire, oui, mais là, si je mange pas mon truc, là, ça va faire ceci, et puis si je mange pas ça, ça va faire cela, et puis si j'associe pas ça avec ça, ça va faire ceci. Tout ça, c'est de la trituration mentale. Votre corps sait ce dont vous avez besoin, et ce dont vous avez véritablement besoin, c'est d'écouter votre petite voix et votre corps. Parce que si vous écoutez votre corps, vous n'aurez aucun problème. Il saura ce que vous avez besoin, et il vous le dira en temps et en heure. Alors, le temps, une question de Pierre Ponce. Concernant le temps, l'année 2014 a été beaucoup plus courte que l'année 2013 en termes de ressenti. L'année 2015 sera beaucoup plus courte. J'ai l'impression que cette différence entre deux années est déjà de plusieurs semaines, voire quelques mois. Saurais-tu évaluer la durée de 2014 par rapport à 2013 et 2015 par rapport à 2014? C'est simple. Nous passons du temps spatial 3D, hein, qui est donc, je rappelle, celui du mouvement des planètes autour d'un soleil, eh bien, dites-vous bien que, en passant en 4D, ce qui est le nouveau monde actuellement, hein, depuis 2012, nous sommes passés en 4D, et ce 4D est un temps ressenti. C'est-à-dire, c'est la partie du quatrième chakra, celle du cœur, et donc c'est un temps intérieur. Et donc, forcément, puisque ce temps intérieur, la fréquence augmente, si, admettons, je donnais des chiffres, en temps normal, sur un an, vous aviez, on va dire, 100 fréquences, et bien comme le temps passe plus vite, vous êtes toujours sans fréquence. D'accord ? Mais la fréquence est de plus en plus rapide. Donc, quand vous atteignez la centième fréquence, vous dites, mais le temps, il a passé vite, j'ai rien compris. Ben, oui. Parce que c'est un temps ressenti. Le temps spatial, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc, si on veut pousser la logique plus loin, si vous dites, ah oui, mais aujourd'hui, là, notre journée de 24 heures, on a l'impression que ça fait 12 heures. Oui. Ça veut dire quoi? T'es deux fois plus lent qu'avant? Parce qu'avant, eh ben, ta journée faisait 24 heures. Donc, ça veut dire que tu pouvais prendre connaissance de plein de choses. Et donc, t'avais l'impression que t'avais beaucoup de temps. Si maintenant, tu ne vois passer que 6 heures, sur 12, c'était deux fois plus lent. Ça veut dire que tu commences à t'éthérer, tu commences à sortir du système. C'est-à-dire que tu commences à sortir du système du temps linéaire. Donc, quand nous passerons en 5D, la notion de temps sera absolument évacuée, dans le sens que l'illusion du temps linéaire sera dépassée. Puisque tu seras dans ton être-té, dans ton temps présent, dans ton éternel présent. Donc, que tu fasses quelque chose qui se passe un tour, que la Terre tourne un tour sur elle-même dans la journée, t'en fous. T'en fous complètement. C'est que tu mettes un an, ou deux ans, ou trois ans, ou quatre ans à faire un truc, tu mettras le temps qu'il faut pour le faire. Donc, quand on dit qu'il faut construire une cathédrale, on disait le principal, c'est d'y aller avec l'être-té en correspondance. Tu construis une cathédrale, et puis, si tu la vois pas finie de ton vivant, c'est pas grave, tu auras participé. Aujourd'hui, quand on veut construire une baraque, faut qu'on se dépêche de la casse finie, parce que derrière, on voudrait plus payer le loyer à un autre. Donc on fout une pression maximale. Et dans la réalité, si on disait mais t'as aucun loyer à payer et tu vas à ta vitesse, eh bien dites-vous bien que la maison que vous construiriez serait beaucoup plus élaborée, et vous feriez pièce par pièce, et peinard, et vous seriez vachement content, car vous auriez participé à 100% de la chose. Si on dit, oui, mais moi, je vais pas passer par des gens pour la plomberie, pour un truc, t'auras le temps de devenir plombier, puis après électricien, puis après plâtrier, puis après ce que tu veux. C'est-à-dire de suivre les formations au fur et à mesure que tu avances. Donc, quand nous sommes en 5D et plus, cette notion de pression temporelle disparaît. Donc, pour l'instant, nous sommes dans l'espace-temps 3D, 4D, et donc, nous passons d'un temps spatial à un temps intérieur, à un temps ressenti. C'est pour ça que, moi je dirais qu'aujourd'hui, une journée, je la vois pas passer, et deux, c'est pas seulement la journée que je la vois pas passer, mais je vois pas les semaines passer, encore moins les mois. Donc, 2014, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu, entre guillemets, et en plus, dès qu'on me parle de janvier 2014, c'est l'éternité, c'est le fin fond du monde, je m'en souviens même plus. C'est un peu bizarre quand même d'avoir cette sensation que ça fait tellement loin, et pourtant il n'a pas vu passer. Donc c'est paradoxal. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation au niveau de la perception, dans le sens que si tu dis ce qui s'est passé il y a simplement 3 mois, ça, t'as l'impression que ça fait 10 ans que ça s'est passé. C'est parce que tu es une fréquence haute. Ça pédale vite. Mais en même temps, le spatial, tu ne vois pas passer, quoi. Tu dis, mais c'est quoi le bordel, là? Bien. Une question de Sylvette. Dans le lâcher-prise, je perds le questionnement. Dans le lâcher-prise, je perds le questionnement pour la communication avec les êtres de cristal, DLN, UDN. Il est conseillé de poser des questions. Comment harmoniser les deux? Alors, attends, il faut que je lise, là, je comprends pas. Dans le lâcher prise, je perds le questionnement. Voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est en présence de fréquence supérieure, eh bien, le mental ego, il est plus là, quoi. Donc, comment harmoniser les deux? Ben, c'est simple. C'est ce qu'on me conseille de faire. Il dit, quand tu as des questions, tu les notes. Parce que quand t'es pas dans notre présence, ton mental ego fonctionne, donc t'as une question, tu la notes. Parce que quand tu seras en notre présence, tu vas complètement tout oublier, puisque tu changes de bande de fréquence. Donc tu seras plus dans le mental ego, enfin dans le mental ego 3D4D. Donc c'est là que tu vas chercher ta liste, et tu dis, ah voilà, ouais, j'avais telle question, et telle question, et telle question. Voilà donc la seule solution que nous on nous a donnée, c'est quand vous avez des questions, vous les notez, parce que quand vous allez être en votre présence, le changement de fréquence fera que vous serez plus sûr à la même bande. Donc vous aurez oublié toutes les questions. Enfin, c'est pas que vous aurez oublié, c'est vous n'y accéderez pas. Donc vous mettez ça sous forme de l'oubli. Mais une fois qu'on sera parti, vous allez redescendre dans votre bande de fréquence à vous, dire, eh putain, mais ça là, je voulais vraiment la poser comme question. Ben, voilà. Donc le petit papier crayon, et on y va gentiment. Hein, parce que dire attends, je vais noter sur l'ordinateur, quand les entités sont là, vous n'avez pas forcément l'ordinateur d'allumer. Par contre, une feuille, c'est facile. Hein, donc moi j'ai pris maintenant, on va dire, l'habitude, bon, ça c'était que surtout quand j'étais en balade, d'avoir un petit carnet dans la poche avec un crayon systématique, parce que les pertes de mémoire sont tellement fréquentes que. La première perte de mémoire qu'on a, c'est que quand on rentre en contact avec un être de la nature, par exemple, on lui donne son nom, on lui donne son nom. Et si on ne le note pas tout de suite, tu peux être sûr que dans les 10 minutes, une fois que, même avant que l'entité repart, tu auras déjà oublié son nom. Donc, c'est le changement de bande de fréquence. Papier crayon. Karma et incarnation, une question de Denise. Moi, je me pose plein de questions après l'article 66 et l'histoire, alors là, je sais pas de quoi c'est, déjà lu à partir d'un commentaire des traficotages de nos mémoires entre deux incarnations. Est-ce à dire que notre soi-disant karma n'est pas en rapport avec nos actes d'avant, donc nos choix d'incarnation non plus? Ouf, que ça change en ce moment, le tout fonctionnant en même temps. Mon mental déconnecte, je ne sais pas. Pas si tu peux dire quelques mots aujourd'hui qui éclairent un peu dans mon terme. Alors, il faut savoir que nous jouons sur plusieurs dimensions à la fois, et que ces dimensions sont dites intriquées. C'est-à-dire, ce qui se passe sur une va influencer les autres réciproquement. En clair, quand ce qui se passe entre deux incarnations, c'est-à-dire que quand ta particule d'esprit sort de ton corps physique et revient dans le corps physique, eh bien, ce qui est passé à la moulinette de l'oubli, on va dire, c'est ta capacité à te rappeler que tu es un esprit immortel. Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième, c'est que ce que nous appelons le karma, c'est tout simplement l'enregistrement de toutes nos mémoires émotionnelles, on va dire. Et ces mémoires émotionnelles, c'est autre chose. C'est ce que on va appeler l'âme. Donc l'âme, c'est pas l'esprit. Donc forcément, imagine que si effectivement les archontes s'amusaient à nous effacer toute la mémoire systématiquement, et donc celle émotionnelle incluse, à chaque fois qu'on reviendrait sur Terre, on serait des innocents totaux, c'est-à-dire sans aucun karma, sans aucun souvenir de quoi que ce soit. Donc il y a bien un effacement qui est fait au niveau de l'esprit lui-même, mais qui n'est pas fait au niveau du corps émotionnel. De telle façon que ce corps émotionnel, eh bien, donc ton karma, puisse rouler. Donc ça veut dire que à fur et à mesure que tu vas te réincarner, ce corps émotionnel va t'enfoncer de plus en plus. Parce que tu vas dire, j'ai eu des vies antérieures, quand tu crois bien sûr à la réincarnation, ou que tu as eu la preuve que tu as déjà vécu ailleurs, en d'autres endroits, en d'autres temps, dans d'autres corps, donc pour eux, c'est tout bénéfice que tu conserves cette mémoire. Donc ils n'effacent pas tout. Pas du tout. Enfin, il est prévu que je fasse un article plus détaillé par rapport à ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a, on va dire, trois niveaux d'enregistrement. Mais pour l'instant, naturellement, on pense qu'on en a qu'un. On efface tout ou rien. Non. Ce sont des plans d'existence différents, jouant sur des dimensions différentes. Donc les archontes effacent au niveau dimensionnel correspondant à ton ressenti d'être un être immortel. Et que tu as les pleins pouvoirs. Donc en effaçant cette partie-là, tu deviens un préhumain avec un karma. Et puis, tu es toujours le préhumain qui revient avec son karma et qui va payer son karma et qui va continuer son karma, etc., etc., etc. Donc, tu t'enfonces toi-même. Le système est fait pour que tu t'enfonces de plus en plus dans l'ignorance, dans la mise que tu crées en permanence. Par contre, quand l'effacement s'arrête, l'effacement que tu es un être immortel et que tu as les pleins pouvoirs, à ce moment-là, tu peux modifier le programme. C'est-à-dire dire, le karma, c'est plus mon taf, là. Alors, après, quand tu sais que toutes tes vies se déroulent en même temps, ça veut dire que tous tes blocages émotionnels sont en train de se dérouler et se déroulent en même temps, c'est-à-dire que tu peux te balader dans le temps d'une certaine manière. Tu te dis, oula, comme j'ai les pleins pouvoirs et que je me rappelle que je suis immortel, d'abord, on va régler le problème de la survie, et puis, on va... regarder les problèmes à fort à mesure qui viennent. C'est-à-dire, à chaque fois que tu viens regarder certains nœuds émotionnels, tu regardes le nœud émotionnel, tu dis, voilà, mon coco, qu'est-ce qui se cache derrière? Et là, eh bien, en regardant, mais en tant qu'esprit immortel, tu dis, ah, mais c'est un jeu, c'est ceci, c'est cela. Ok, c'est bon. J'accepte, c'est. Et n'étant plus en conflit avec ceci, eh bien, l'individu qui est en train de créer ce nœud émotionnel dans une autre vie, dans une autre époque, et qui se déroule en même temps, eh bien, on va se dire, ouais, bon, pécadille. Tiens, là, on vient de me violer. Bon, pécadille. Parce que moi, ma vie, je veux ressentir ce que c'est. Et ça, c'est un accident. Et alors, je vais pas en faire un monde. Ça fait partie d'expérimentation. Très bien. Et en fait, quand dans une vie tu arrives à débloquer un nœud émotionnel, eh bien en même temps tu crées dans l'autre vie de l'autre qui est en train de le vivre à le créer, eh bien cette capacité de lâcher prise. Et donc on s'auto-influence en permanence dans toutes les dimensions, mais aussi dans toutes nos vies, qu'ils soient, on va dire, antérieures ou postérieures, puisque c'est un truc circulaire. Mais là, j'ai un petit article qui est prévu à ce niveau-là, une vidéo. Ça viendra quand ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Alors, eau encodée, une question d'Anne. Tu dis, l'eau encodée décrase, nettoie les programmations et élève les vibrations. Je demande si cette eau encodée joue aussi un rôle à une incidence au niveau pranique et la glande pinéale. Cette question, suite à ta réponse dans un des commentaires sur la respiration, comment respirer fait encore partie du paysage. Respirer en toute conscience, lâcher prise, plus encoder, que voilà un beau duo. Blague à part, Laurent, que nous conseilles-tu d'y ajouter ou s'extraire? Le truc, c'est que si vous buvez de l'eau encodée, vous ne faites que planter un herbicide, on va dire, dans votre environnement énergétique. Et de programmation, c'est-à-dire que les mauvaises herbes, ils vont avoir des soucis. Partant de là, le reste va s'agencer tout seul, à fort à mesure. Donc après, quand on parle de glande pinéale ou pas, ça c'est un organe physique, d'accord? Mais il faut savoir que cet organe physique a des capacités dans d'autres dimensions. Et donc le fait de nettoyer les programmes dans d'autres dimensions va faire que c'est les capacités de cet organe physique va pouvoir reprendre, on va dire, du service. Donc, tout est en interaction. Absolument tout. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est buvez de l'eau encodée, et puis, toujours, puissance maximale. Mais là, je reviendrai dans un article assez prochainement. par rapport à ça, parce que maintenant j'ai un tout petit peu plus de recul, hein, ça fait du bien de poser son cul à la maison, j'ai un petit peu plus de recul, et ça permet aussi de voir quelles en sont les conséquences sur plusieurs niveaux. Hein, parce que quand on est dans l'action sur le terrain, on n'a pas le temps de poser son cul, hein, et de regarder tout ce qui se passe, et de comprendre tout ce qui se passe. D'accord ? Donc je reviendrai là-dessus dans un délai, on va dire, raisonnable. Hein ? Je promets plus, mais ça va être une promesse, on va dire, du côté 5-6D. Hein ? Alors, à ce niveau-là, quand vous promettez quelque chose, que vous allez le faire à un être de la nature, eh bien, dites-vous bien que lui, la notion de temps, il n'a rien à battre. Le principal, c'est que vous le fassiez. Et ça, c'est un des privilèges de l'éternel présent. Donc, si vous dites, ah bah tiens, je vais te mettre dans un bain, d'eau encodée, hein, si vous parlez à votre crâne, par exemple, eh bien, l'essentiel, c'est que vous le fassiez. Après, quand ? Alors là, pour eux, pourquoi ? Parce que si c'est, si vous avez dit demain, il va se dire, c'est demain dans ton temps, mais dans le mien, ça ne veut rien dire. Donc, mais il faut le faire. Un jour ou l'autre. Donc moi, dans certains cas, je me suis engagé par rapport à certains êtres de la nature, à leur offrir quelque chose, et donc un encodage, par exemple, eh bien, ça sera. Le seul truc, c'est que c'est pas forcément demain. Ça pourra se faire dans un an, dans deux ou dans trois. Parce que pour eux, ça ne veut absolument rien dire, puisque tout se passe en même temps. Donc je sais que ces notions temporelles vont être de plus en plus difficiles pour vous, mais comprenez cela. Le monde de Saint-Décisé ne fonctionne absolument pas de la manière linéaire de l'entrée avec elle. Une question de Vincent. Ma petite voix, après m'avoir fait devenir frugivore depuis 15 mois, me dit de tout quitter pour partir vivre à Lourdes. Je suis au Mans en ce moment. Ma question est, est-ce que l'eau de Lourdes, celle que la fameuse grotte, est intéressante à boire? Alors, déjà, si elle te dit d'aller à Lourdes, tu vas à Lourdes, c'est tout. La deuxième, c'est que l'eau de Lourdes a été encodée. La grotte est encodée, la basilique est encodée, l'église est encodée, enfin tout est encodé là-bas. Donc l'avantage que possède cette eau de Lourdes est dû, on va dire, à certaines configurations, on va dire énergétiques, mais aussi, enfin bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui fait que ça donne des capacités d'accès à une certaine forme de multidimensionnalité. Le fait de l'avoir encodée lui donne, démultiplie ces capacités-là, dans le sens où ça purifie de toutes les saloperies, on va dire, religieuses. Donc si ta petite voix te dit d'aller du côté de Lourdes, c'est qu'il y a forcément une raison. Et peut-être que cette raison, c'est tout simplement de boire l'eau de Lourdes, et qui va te permettre de pouvoir passer à un stade supérieur en termes de communication et de multidimensionnalité. C'est en cela que je dis que écouter sa petite voix est très importante. Moi, ma petite voix m'a souvent demandé des trucs qui étaient complètement illogiques, incongrus, enfin, pas du tout dans la logique des choses, mais j'ai quand même les écouté. Et puis derrière, après, plus tard, tu comprends pourquoi. Mais elle pouvait pas te dire avant. Parce que sinon, tu aurais dit, c'est quoi, c'est comme. Et là, tu aurais bloqué, tu aurais dit, non, je peux jamais ça. Et là, il peut plus rien faire. Donc, le truc, il dit, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Mais, voilà. Donc, il y a peut-être cette eau de groupe, entre autres, mais il y a peut-être d'autres choses à côté que tu ne sais pas. Il y a peut-être une personne là-bas qui t'attend, t'as peut-être un groupe qui t'attend, t'as peut-être une fonction qui t'attend. Non, ça rien. Et peut-être que l'eau n'est qu'une étape. Parce qu'après, il va dire, mais ça serait bien, mais il faut que tu déménages à tel endroit. Il y a juste à suivre. Suivez. C'est tout.